Bon, le compte à rebours est parti, c'est-à-dire date butoir 15 octobre, et on estime déjà là, que Québec devra combler 20 000 postes dans le réseau de la santé.
Écoute, 20 000, Paul. Ouais. 20 000, et tu as le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui déclare, et je cite, « Je m'engage à ce que les gens n'aient pas de bris de service, à ce qu'il n'y ait pas de bris de service pour les patients. » Écoute, quand j'ai lu cette déclaration-là, je me suis dit « Oh, boy, il s'étire le cou. Il se met la tête sur la bûche, Christian Dubé, là. Parce qu'aucun bris de service, alors qu'on sait que sur les 20 000 travailleurs de la santé non vaccinés, il y en a au moins 10 000 qui travaillent auprès des patients, qui sont des soignants. Paul, enlève 10 000 préposés, infirmières et autres donneurs de soins et ça n'aura pas d'impact sur les soins. Le ministre Dubé vous en donne sa parole. Écoute, j'ai hâte de voir ça. Alors, évidemment, il se met à risque politiquement quand il fait une déclaration comme celle-là. Et plus important, tu sais, sur le fond des choses, on souhaite qu'il réussisse parce que s'il ne réussit pas, c'est les soins que nous recevons dans le système de la santé qui vont être mis à risque. Donc, au-delà de son risque politique, il y a le risque pour les soins. Alors là, il prend un engagement. Bon. Puis, soit dit en passant, c'est un engagement qu'il partage avec les dirigeants des CIS et des CIUS. Parce qu'il a dit, moi, là, je ne veux pas entendre parler de bris de service. Parlez-moi de réorganisation de services. Il a dit ça à ses PDG de CIS et de CIUS. Fait qu'il se crée une espèce d'obligation de résultat en disant « Je vous promets qu'il n'y aura pas de bris de service. » Mais il partage cette obligation de résultat avec la haute direction des CIS et des CIUS. Je vais dire, eux autres, là, les PDG de CIS et de CIUS, ils ont intérêt à livrer. Là, parce que tu sais, Christian Dubé leur dit, dans le fond, « Présentez-moi des solutions, là. Moi, là, je mets ma tête sur la bûche, mais je suis pas tout seul. Vous autres aussi, vous la mettez sur la bûche. Fait que organisez-vous pour me présenter des options, puis montrez-moi que vous êtes capable. Vous êtes capable de gérer ce manque d'au moins 10 000 soignants. »
Est-ce qu'on peut dire que trouver 10 000 personnes en un mois, là, alors qu'on n'est pas capable d'en trouver à l'année longue...
Est-ce que ça relève de l'impossible?
Non, mais ça passe par des mesures assez radicales. Là. Tu peux pas arriver juste à vous donner 500$ par mois de plus. Ou ça peut pas y aller avec des incitatifs financiers seulement. Là. Tu seras pas capable.
Écoute, il va
moi, je pense que c'est un mix bâton-carotte. Là, parce que...
Je sais pas. Ils sont en train de réfléchir à ça. Ils vont nous déposer le plan la semaine prochaine. C'est certain, Paul, que tu sais à court terme, là, pis c'est le gouvernement lui-même qui le dit, pour pas qu'il y ait de bris de service, il faut qu'on rapatrie entre 4 000 et 4 500 infirmières dans le système d'ici le 15 octobre. D'abord, ils vont les prendre où? Puis deuxièmement, comment est-ce qu'ils vont les convaincre?
Il y a deux endroits.
Hein?
Privé.
Ouais, puis retraite.
Retraite.
Ouais,
mais là, comment t'es sort du privé, puis comment t'es sort de la retraite? Parce que c'est pas juste le cash, là. On s'entend, là.
Bien, le cash, c'est sûr que ça va
faire... Ça joue, là,
ça fait partie de la solution. Moi, j'ai eu cette discussion-là hier. Avec quelqu'un qui est impliqué dans cette stratégie-là, j'ai dit, ça peut pas être juste l'argent, là. Et puis là, ben, ce qu'on me répond, c'est, garde, l'argent, ça va aider. L'espoir qu'on a, c'est de les convaincre de revenir dans le réseau. Puis une fois qu'ils sont revenus dans le réseau, il faut les convaincre de rester. J'ai dit, ouais, mais comment tu vas faire ça? Ben, il faut réorganiser les soins. Il faut Une fois qu'on les a ramenés, il faut leur dire, bon, ben là, à ce temps que tu es revenu, comment est-ce qu'on pourrait te garder? Et puis, comment est-ce qu'on pourrait trouver des solutions qui feraient en sorte que tu aurais plus le goût de repartir?
Mais c'est quoi? T'as raison, mais moi, ce qui me... Je comprends qu'on a eu la pandémie, là.
Oui.
Mais c'est pas d'hier, la rareté des infirmières. C'est pas d'hier qu'on les entend nous parler des horaires tout croche, puis les différences entre les anglophones et les francophones.
C'est ça. As-tu remarqué, là, on entend de plus en plus parler là, des cadres de 12 heures, faut les essayer,
ben oui.
Les cadres de travail de 12 heures, qu'on a déjà du côté anglophone, puis qui font qu'il y a beaucoup moins de temps supplémentaire.
Moi, j'ai pas la réponse. Moi, je lis les courriels que les infirmières m'envoient.
Oui.
Mais
Alors, une des solutions sur la table, Paul, c'est les horaires autogérés. C'est-à-dire que les équipes se mettent ensemble sur un plancher, mettons, puis ils se partagent l'horaire. Par exemple, comment est-ce qu'on pourrait s'assurer pour... Comment est-ce qu'on s'assure là, qu'il ne manque pas de monde dans le prochain mois ou dans les prochains 6 mois? Toi, tu serais-tu capable de faire 7 jours, les 7 prochains jours? Moi, je prends les 7 d'après. De cette manière-là, on est capable d'avoir de la prévision, on va être capable d'organiser notre vie de famille, puis on va être capable de se coller des congés. Bon, puis là, il faut que quelqu'un coordonne cette discussion-là. Alors, là, on me parle d'infirmière-chef. Hier, pendant mon émission, il y a une ancienne infirmière-chef qui m'appelle, elle me dit « il n'y en a plus d'infirmière-chef, ça a été aboli ces postes-là ». Regarde, il faudra voir, tu vas recevoir des textos dans les prochaines minutes qui vont te le dire si ça existe encore ou pas. Mmh. Je serais curieux d'entendre la réponse. Mais il paraît en tout cas que dans certains endroits, il n'y en a plus d'infirmières-chefs. Or, c'est des infirmières importantes, enfin, quand elles étaient là, parce qu'elles jouaient un peu le rôle de pivot. Elles étaient un peu comme celles qui orchestraient le travail des autres infirmières. Elles s'assuraient que l'information circule. Elles s'assuraient donc qu'il n'y ait pas de
cohésion, là.
Oui, puis qu'il n'y ait pas de mise à découvert, qu'ils ne se retrouvent pas. Bon, alors, un peu sur le modèle des CHSLD, Paul, où on a décidé de nommer à nouveau des responsables pour s'assurer justement que le travail se fasse puis que le travail soit organisé dans chaque CHSLD. Alors, est-ce qu'on pourrait organiser à l'intérieur des CIS et des CIUSSS des plus petites unités coordonnées justement par quelqu'un qui serait responsable de le faire et donc demander aux soignants puis aux soignantes, regarde, on peut-tu se réunir là, puis voir comment est-ce qu'on pourrait organiser l'horaire de travail pour faire en sorte que ce soit plus vivable puis qu'on soit capable donc d'avoir une meilleure qualité de vie. C'est une hypothèse qui circule présentement.
Okay.
Parce que Paul, ils pourront pas...
Mais comment un mammouth peut faire preuve de souplesse?
C'est ça mon scepticisme. Et puis quand t'entends le ministre de la Santé sortir hier puis dire essentiellement ça coûtera ce que ça coûtera, moi Paul, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, un ministre de la Santé qui sort publiquement et qui dit à son collègue de la Santé, garde, mets le montant sur le chèque puis je chigne en bas du chèque. Ministre des Finances, ouais. Éric Girard. Il a dit, on parle de centaines de millions. Écoute, Paul, ça, c'est pour qu'il aille là, c'est parce qu'il réalise à quel point, j'allais dire, l'heure est grave. C'est un moment de vérité très important pour le gouvernement Legault, ce qu'on va vivre là, d'ici le 15 octobre, puis après le 15 octobre. Parce que là, tu as le ministre de la Santé, qui est un des piliers de ce gouvernement, qui dit, je vous donne ma parole. On va réussir. On va déposer un plan, puis il n'y aura pas de bris de service. Et puis là, t'as le ministre des Finances puis le cabinet du premier ministre, sans aucun doute, qui se disent, hey boy, on n'a aucune marge d'erreur.
Fait que, on va voir le plan la semaine prochaine.
On va voir le plan la semaine prochaine, exactement.
Élection
faite. Puis les syndicats, Paul. Il va falloir que les syndicats embarquent aussi dans cet effort-là. Là, ils viennent de signer des nouvelles conventions collectives. Moi, je m'attends des syndicats à ce qu'ils jouent un rôle constructif et qu'ils contribuent à la réussite de l'opération. Appelons-la l'opération 15 octobre.
Bon. Élection fédérale, c'est le sprint pour le vote lundi. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens là, de ces derniers jours?
Beaucoup de fluidité. Habituellement, très souvent, Paul, quand on arrive à ce moment-ci de l'élection, quelques jours du vote, on sait à peu près qu'est-ce qui va arriver. Parce que les sondages... Là, les sondages sont...
Aux antipodes.
Ils sont all over the place, comme dirait l'autre. Le scénario le plus probable, c'est un gouvernement minoritaire, probablement libéral, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Mais il y a une chose qu'on peut dire déjà, Paul. On peut déjà dire que le Parti populaire de Maxime Bernier va sortir gagnant de cette élection. Ils ont commencé l'élection à 1,5% dans les intentions de vote. Ils sont à 5, ils sont à 6. Dans certaines régions, ils sont à 7, ils sont à 9. On commence à parler de la possibilité qu'ils fassent élire une députée, Chelsea Hillier, dans Elgin, Middlesex, London. Ça, c'est en Ontario, sud-ouest ontarien. Elle a fait des rassemblements, mon gars. Là. Allez voir ça sur les réseaux sociaux, c'est complètement capoté. Là. T'as des milliers de personnes, là, puis ils sont crinqués, pas à peu près. Et moi, je vous le dis, ce mouvement-là, Paul, ne va pas s'éteindre. Tu sais, on regardait ce qui se passait aux États-Unis, puis on regardait Trump, on se disait, ça se peut-tu, la droite populiste? Bien, la droite populiste est rendue chez nous, Paul. Puis, elle va faire un bon score lundi soir.
Elle va faire mal à O'Toole.
Écoute, le taux de participation la dernière fois, là, j'ai fait un petit calcul, là, c'était 18,5 millions de personnes qui ont voté la dernière fois. Mettons qu'on aurait la même participation, là, 5% au Parti populaire, c'est tout près d'1 million de personnes, Paul. puis peut-être plus, qui vont voter pour Maxime Bernier, puis le mouvement anti-masque, puis le mouvement anti-passeport vaccinal. C'est du monde à messe. Quand dans un pays, tu as un million, peut-être plus qu'un million de personnes qui disent « Regarde, on ne se reconnaît pas dans les mesures sanitaires », tu peux pas juste regarder ça de haut puis dire « C'est une gang de zouf ». Et je dirais, et je conclue là-dessus, plus on va les mépriser, plus on va les regarder de haut, puis on va les traiter de zouf, puis d'idiot, puis de pas d'allure, puis de pas de dentier, là, plus leur nombre va grossir. Il faut les... On a beau pas être d'accord, mais il va falloir respecter ce groupe-là, Paul, et composer avec de plus en plus, j'en ai bien peur.
Merci, monsieur. Bon week-end. Salut. On se retrouve lundi matin, 7h13. Autoroute des Laurentides.